Radio Galère 81.4, la radio est un peu trop libre.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 galérienne, galérien. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Galère. Donc, nous sommes à Marseille, mercredi 4 juin. Et nous sommes avec juste 2-3 minutes de retard pour Livres et Amis. Et je suis toute seule, figurez-vous. Enfin, heureusement, j'ai Clément à la technique, là de l'autre côté de la vitre.
Salut.
Mais Françoise, encore une fois, ouais, il nous fait un bonjour. Françoise, encore une fois, a eu des tas d'autres choses à faire. Alors voilà. Je vais vous lire mon livre que j'ai trouvé très beau, vous verrez tout à l'heure, en essayant de varier les tons pour faire comme si nous étions plusieurs. Alors en attendant, qu'est-ce qui se passe à Marseille ? C'est le grand chambardement à la Friche, là. Il y a un festival qui s'appelle, je ne sais déjà plus, Le Bonheur.
Le Bonheur, ouais.
Voilà, Le Bonheur. Alors je crois que c'est de la musique, des tas de concerts dans tous les coins, ce qui fait que vendredi, samedi, dimanche, c'est le grand truc. Non, c'est pas... Si, c'est vendredi, samedi, dimanche. Il va sûrement y en avoir partout, parce que là, ils installent, ils déménagent, ils reménagent. Enfin bon, bref, si vous n'aimez pas la musique, ne venez pas à la Friche pendant le week-end, parce que ça va bastonner, comme on dit. Et si vous aimez, au contraire, bon, je pense qu'il y a des tas de solutions. Il y a aussi les rencontres à l'échelle qui ont commencé juste la semaine dernière et jusqu'au 14 juin. Alors les rencontres à l'échelle, ça devient une institution marseillaise maintenant, hein. Il y a plein de choses, plein de spectacles et dans beaucoup de lieux. Donc je vous renvoie à une petite brochure très jolie, très colorée qui a été éditée là, qui est vraiment très belle. Mais j'ai pas l'image pour vous montrer. Et puis bien sûr le site de lesrencontresàl'échelle.com. Et samedi c'est la marche des fiertés. Ils appellent ça Brise la vague, Pride Marseille. Donc voilà, là encore, ça va être dans la rue, mais je pense qu'il y a aussi un village associatif, des concerts, une soirée, enfin plein de choses samedi. Voilà, allez voir, là encore, il doit y avoir un site Pride Marseille pour la marche des fiertés à Marseille samedi. Il y a sûrement aussi des tas d'autres choses, vous savez, il se passe toujours des tas de choses chez nous. Et vous allez voir, comme d'habitude, hein, vos petites radios, les brochures dans les bibliothèques, à la Friche, partout. Et vous trouverez des tas de choses à faire pour ne pas bronzer idiot, bien sûr. Alors, aujourd'hui, mon livre, oui, je vous disais que ça allait vous plaire. C'est pas du tout la même chose que, vous savez, il y a 2 semaines, on a lu « Soi ». De Alessandro Baricco. Et alors, soit j'avais beaucoup aimé parce que c'est une écriture plate, blanche, neutre, qui vous laisse voyager, mais qui vous laisse tout imaginer vous-même. Et là, je dirais un peu à l'inverse, je vais vous lire un livre de Christiane Taubira. Ça s'appelle « Nuit d'épines ». Et ce sont un peu les souvenirs de Christiane Taubira en Guyane, mais pas que. Et ce sont ces références donc à la nuit, à un certain nombre d'activités que la nuit lui remémore. Et alors, je vous disais, c'est l'inverse de Alessandro Baricco parce que c'est un style, au contraire, très riche, très précis, très détaillé, avec beaucoup d'adjectifs. Il y a des descriptions précises, des explications précises. Enfin, c'est très, très rigolo. Et c'est un vrai plaisir, là encore, de voyager, mais de voyager différemment. Donc, vous aurez des exemples de littérature qui nous font voyager, mais tout à fait de façon différente avec ces 2 exemples. Alors voilà, Je vais commencer avec le prélude, ça semble en effet tout à fait indiqué. Et Christiane Taubira qui nous dit dans Nuit d'épines, ben d'abord ce que lui évoque bien sûr la nuit. Subrepticement, puis effrontément, ostensiblement, la nuit prend ses aises et ses quartiers. Elle glisse le long des poutres en angélique, lissant leurs contours et leurs nœuds. Je ne sais d'où je le sais, mais la nuit, c'est la vie secrète des parias. On prie et on rêve, bien sûr. Et surtout, on conspire, on ourdit des renversements du monde. On fait des libations, virtuelles ou réelles. On invoque les divinités et leurs saints. On empoigne son destin, on remet le monde à l'endroit et sur ses pieds. Salut les opprimés, les humiliés, les exilés, à Cancun et par la terre entière. La nuit, c'est le temps des serments inviolables, des aveux rédempteurs, de déchiffrement des augures limpides ou énigmatiques. Lorsqu'elle est bien épaisse, elle fait fidèle cortège aux sorcières, aux gadots, aux prêtres animistes, aux charlatans. C'est le lieu de résistance, de dissidence, de résilience, le carrefour de toutes les sécessions et des plus improbables renaissances. Elle mue et elle métamorphose. Entre les incertitudes des cieux et les inconstances d'un sol encombré de vœux et trempé de chimères, elle tire une bâche rugueuse et connivente. Cigales et grenouilles donnent concert. Alors, il faut que je vous dise quand même, cigales et grenouilles, moi, j'ai l'impression que les cigales, la nuit, elles se taisent. Mais les grenouilles, elles en mettent un coup. Et alors, hier, là, comme on est en période un peu orageuse, les grenouilles en bas de chez moi, là, dans le jardin, elles se croyaient en effet en Guyane. On avait concert de grenouilles. Donc, en effet, je reprends. Moi, je veux bien qu'elles mettent en même temps. Cigales et grenouilles donnent concert. Elles sont ponctuelles. Eh oui. Les stridences commencent sans annonce à l'obscurité tapante, mystérieuse nature. Les arbres dans la cour semblent jouer de leur forme, comme s'ils rentraient le ventre ou bombaient le torse ou contractaient le fessier, tendant les bras tout droit en position parallèle dans la droite ligne des épaules, omoplate, plate. Inspirez, expirez, l'un d'eux, récemment décapité pour lui éviter de dépérir sur pied, exhibe un scalp en moignon orné de quelques feuilles tendres reverdissant placidement. Les cocotiers sont moins longilignes que ceux de la plage. Ceux-là fructifient et s'accommodent des dérangements intempestifs d'une cueillette anarchique. Le grand sachem, c'est le fromager. Le fromager, oui, il trône de l'autre côté de la rue. Il règne sur un terrain vague où nul ne s'aventure plus dès les premiers signes du serein. Le serein aux Antilles, c'est le crépuscule. Majestueux, il surplombe toits et clôtures. Certes, ce n'est pas le fromager de Saül, l'arbre champion que je ne connais pas encore, mais celui-ci, s'il ne frôle pas la voûte céleste, en tout cas, il lèche l'horizon. On dirait un Kyle Cedra royal du cahier de Césaire, plongeant dans la chair rouge du sol, dans la chair ardente du ciel. Il a la tranquille rectitude de l'invulnérabilité. Il n'est pas un téméraire à grand bel en même sou, pour courir le risque de l'égratigner, fût-ce par mégarde. Il est fromager. Il donne hospitalité aux masquilili avec leurs 20 orteils inversés, aux bébés morts avant baptême qui ne trouvent pas le chemin des limbes, aux baclous malfaisants tolérés par Massagadou, et il accueille, branches ouvertes, les antipodes libous de passage. Il étire ses contreforts plus largement qu'un palétuvier, lassivement, confortablement. C'est sous ses feuilles que ressuscitent les dieux bannis, que festoient les esprits négligés, que refleurissent les cultures reniées, les langues désertées, les rites délaissés. Ah, fromager. Alors, vous avez en effet peut-être reconnu ce type de poésie, pourrait-on dire tropicale, qui rappelle, comme le dit Christiane Taubira, le cahier d'un retour au pays natal que nous avions lu aussi il n'y a pas bien longtemps, 3-4 semaines, je crois. Et c'est vrai que lorsque Aimé Césaire se laisse aller au lyrisme de l'évocation des Caraïbes. Et il n'est pas très loin du lyrisme de Christiane Taubira quand elle évoque là son grand fromager ou quand elle évoque d'autres éléments de la végétation et de la vie locale. Il fait soudain nuit noire, un nuage qui a dû tirer ses voilages. Le manguier, sensible aux signes invisibles, frémit en raidissant ses branches. Ce qui frappe, c'est l'acuité vide du paysage dans le conte créole. Le paysage, oui, il est épuré, un plan de lieux successifs. C'est que le paysage n'est pas destiné à être habité. C'est un lieu de passage, ce n'est pas encore un pays. Cette aberration décrite par Édouard Glissant est tout à la fois une violence, un déni, une mutilation consentie. La violence de ceux qui écrivent l'histoire du monde depuis un centre impérial et péremptoire, qu'ils font rayonner sur d'immenses marges, récusant toute subjectivité à qui peuple ces marges. Un déni ruminé. C'est, chez la plupart des gens de chez nous, une mutilation consentie, par désarroi, par ignorance du nom de la chose, parce que Frantz Fanon, lui, il nomme la chose « aliénation ». Et il dépeint ses méandres et ses ruses. Il décrit ses victimes dont la volonté s'est pétrifiée. Alors vous voyez, on refait allusion maintenant à Frantz Fanon. C'est un petit peu tous les grands classiques de la littérature caribéenne. Et c'est vrai que on recherche avec Christiane Taubira une espèce de savoir caribéen et qui ne veut pas être colonial. En attendant d'atteindre à ce sulfureux savoir, il faut à son corps défendant, et malgré les réticences, voire les insurrections de la mémoire, apprendre à vénérer les ancêtres gaulois et annoncer leurs exploits. S'extasier sur les faits d'armes de Pizarro contre Atahualpa, sur les prouesses de l'amiral Colomb et les furies de Aguirre, montrer un certain égard pour les suppliciés qui pavent leur sillage et qui séduisent de jeunes filles éblouissantes qui parfois deviennent redoutables, comme la reine Anacaona. Il faut admirer les caravelles. Vous savez, les caravelles avec leurs jolis petits noms féminins, la Nina, la Pinta, la Santa Maria. Eh oui, bien sûr, il y a toute une culture de ces colonisateurs-là. Alors, acquiescer à la découverte comme à une bénédiction, enchaîner le catalogue des comptoirs coloniaux comme une litanie, rabâcher les villes tropicales vaincues et s'en réjouir, tenir pour sauvages, sanguinaires, cannibales et lubriques ces peaux rouges, adorateurs de soleil et de dieux à tête d'oiseau, qui incidemment habitaient ces terres prétendument vierges. Il faut s'appliquer à réciter sans trébucher les départements français et leurs chefs-lieux. Pour cela, il convient de faire bien attention à ne pas mélanger torchons et serviettes, truffes et limaces. Un saut arithmétique est nécessaire. Après le 95e et dernier département hexagonal, le 96, le 96 restera un fantôme, ou alors il a été poussé en quarantaine illimitée. En tout cas, on passe à une série de 97, 1, 2, 3, 4, 971, 972, 973, 974, pour ces territoires d'outre-mer, ces territoires des tropiques que l'on n'apprend pas vraiment encore ou que l'on n'apprend plus, après tout, la géographie cabriole. Il y a, il le faut bien, un écart entre la métropole et ses quatre dépendances qui paraissent sur l'autre bord de la mer. Pour l'instant, de ce côté des rives marines, en Atlantique, en Caraïbes ou en Océan Indien, nous répétons laborieusement, scrupuleusement, assidûment, infailliblement, tout ce lot d'étrangetés venues de la métropole. C'est que ce côté nôtre, c'est l'autre côté pour eux, l'outre-mer. Et voilà comment on vous désaxe la tête, le chez-soi hors champ. Ainsi se déploie la toute première présence sociale, par l'absence, le silence, l'inexistence. Comment y survit-on ? Par instinct d'abord, et par défi ensuite, quitte à puiser dans les recherches syncrétiques des nuits marronnes et des sabbats de sorcières réfractaires, des rituels condamblés et des célébrations d'orisha, des contes louant les épopées féminines, des guérisseuses et des avorteuses, ces bienfaitrices qui œuvrent obstinément la nuit. Sangor, d'ailleurs, proclame la nuit plus véridique que le jour. Eh oui, encore un classique, Sangor. Gentiment, la nuit nous entraîne ailleurs. Ses bruits et ses formes sont moins insolites que les drôles de vérité de nos livres. Un jour, sans prévenir et sans pour autant qu'on en soit surpris, s'ouvre cette voie royale de secours quand viennent à la rescousse sur la pointe des pieds, faisant le mur et clignotant dans cet univers alien, les inaccessibles Tumucamac de l'extrême sud guyanais, hors de vue et de portée, aussi réels que symboliques, et infiniment plus hospitalier que le Massif central, les Vosges ou même les gorges du Verdon. Survient donc l'heure propice, la nuit. La lune blanche luit dans les bois, c'est l'heure exquise. C'est Verlaine qui a écrit ça. La lumière du réverbère clignote à intervalles irréguliers, m'arrachant des larmes d'attention et d'application. J'ai coincé ma lampe de chevet entre la table de nuit et le haut du lit. Elle éclaire modérément une veilleuse, reste une veilleuse. Mon petit transistor, lui, est calé sur le traversin et il diffuse, contre mon oreille, un concerto de Bach ou l'art de la fugue. Ça crachote en sourdine. C'est une forme de massacre de la musique, mais c'est mon concert, contrevenant. Je suis en triple infraction. Lumière, lecture, musique. Comme en échelle logarithmique, la transgression musicale est triple. J'enfreins le silence imposé par le couvre-feu maternel. Je passe outre les goûts du professeur de musique qui survole Bach et s'attarde sur le lit. Je contourne mes familiarités harmoniques. Et peu avant les aurores, quand le soleil feignant encore qu'il n'est pas encore là, moi, surtout le samedi, la radio me diffuse des bluettes et des variétés. Et même sur les nouvelles chansons, ben nous reconnaissons les voix des filles up-to-date. Vous savez, à l'époque, Hardy, Vartan, ou alors des garçons au timbre fluet comme Salvatore et Adamo. Mais c'était un tempo émouvant, et puis il y avait plus entraînant, Dick Rivers par exemple, avec sa houppe sur le front. Le dimanche après-midi, sur le gramophone, qu'il nous est résolument défendu de seulement effleurer autrement que du regard, maman, elle, passe des disques de blues, de jazz, Armstrong, Béchette, Duke, Billy, Sarah, Ella. Enfin, tout ce qui en découle, de Makeba à Belafonte. Et elle alterne avec des chansons françaises à texte, de Piaf à Trenet, de Gréco à Nougaro, de Barbara à Béart. On est bien lotis, oui, oui, on aime. À l'adolescence, c'est la période des grands interdits affriolants, mais il y a aussi ces ritournelles, mélopées et mélodies, sensuelles, légèrement sucrées. Et puis il y a les musiques guyanaises, sud-américaines, caribéennes, qui traversent allègrement tous les filtres pour agrémenter notre, notre répertoire, varier nos goûts, corser nos désirs, et gonfler les voiles de mes impudentes et impudiques rêvasseries. Alors la nuit, moi, pour moi, c'est bien l'heure propice, celle de toutes les désobéissances et des explorations hasardeuses. Je commets, sans particulière lucidité, mais avec une prescience d'hédonisme, mon initiation brute et profane, autonome, à la maîtrise du temps. Oui, c'est intéressant cette évocation par Christiane Taubira de ces nuits de petites filles et de jeunes filles où, en effet, elle brave les interdits familiaux ou les interdits du pensionnat aussi. Je crois que c'est les souvenirs que beaucoup d'entre nous ont aussi d'avoir cherché autre chose pendant la nuit que ce qu'on avait le droit de faire, évidemment, le jour en famille. Et ça ouvre aussi, comme elle dit, des nuits de rêve, des nuits même de sensualité. des nuits d'attente, puisque bien sûr, les jeunes filles rêvent, elle l'a dit. Tant d'idylles m'attendent, des femmes, des hommes, nés dans les Suds, ont chanté leurs racines, leurs histoires, leurs rêves et leurs révoltes. Sûrs de leurs bons droits et de leurs effets, ils scandent que de leur réveil et de leurs défis, tout un rythme nouveau va térébrer le monde. C'est le cri de Césaire qui perce déjà, c'est la rage de Damas qui transperce. Je n'ai pas encore aspiré, reniflé, léché la glaciale fureur de Fanon, ni saisi l'énergie vitale de Cabral et d'autres, encore inconnus, qui serpentent dans les complaintes. Mais les élucubrations hallucinées et impudiques de Mayotte Capétia, rampe, et pulsion féminine de conservation peut-être, sa personne m'émeut vraiment. Finalement, Fanon trouve qu'elle éclabousse, il a raison, mais c'est vraiment trop sévère. Elle fait rêver aussi. La nuit permet tout, toutes les audaces, toutes les images, toutes les noces sémantiques, imaginaires, lyriques. Manses, c'est maman, oui, bataille avec ses démons. Ils viennent chaque nuit. Ah non, c'est grand-mère, pardon. Et eux aussi ont leur horloge, celle des regrets et des tourments. Mansès, c'est ma grand-mère, paternelle. Mon père ne vit pas à la maison, il a un autre domicile, une autre femme que ma mère, d'autres chats à fouetter que notre éducation. Mais Mansès, sa mère, recueillie par maman, a un pacte avec ses démons. La nuit, elle commence par haranguer le plan de piment Batoto tapis sous l'aile d'un accommodant surotier derrière la maison et dont les feuilles transforment les torsions du vent en mini-tornade qui déloge les mouches sans paupières qui flémardent en leur arrachant de sinistres stridulations. La nuit, c'est l'amorce de la querelle qui gronde. Et Mansès, elle borborigme contre les revirements du pimentier en évoquant les parfums avenants et les petits fruits ronds aguichants aux nuances moirées qui fredonnent de jour et qui, la nuit à peine surgie, projettent des reflets désobligeants avant de sombrer en émettant d'hostiles gémissements ou grognements. Elle reproche à l'arbuste d'être un tourné-viré. « Janice » cingle-t-elle en sifflant entre ses dents. « C'est Janus. Eh oui, Janus, bon et mauvais. » Elle recycle et créolise ainsi les divinités, reines et pharaons, dont maman nous abreuve les jeudis après-midi. Et oui, du temps où les mercredis étaient les jeudis. Elle avait surnommé Pigritia, notre chien pâteau, assez indolent et qu'elle trouvait paresseux. Un surnom moins vindicatif que Pigrièche, qu'elle assénait à ma cousine, jeune adulte déjà mère, qui n'avait aucun penchant à l'obéissance et lui tenait tête à l'occasion de ses prêches de bons conseils. À peine a-t-elle éructé ses imprécations contre l'arbuste perfide et Sainte-Nitouche qu'elle s'en détourne pour aller à l'essentiel. C'est signe que le cœur de chauffe, ce rhum qui déchire la glotte en même temps qu'il dissout les inhibitions, a mûri son œuvre d'éphémère aiguillon. Alors, dans les vapeurs d'une intarissable désolation, avec les lourdeurs râpeuses d'une langue saburale, il faudra que je lui demande à Christiane ce que ça veut dire ça, Mansès provoque les démons. À la cadence ou cascade ses répliques, je déduis que les malins lui répondent au quart de tour. Elle leur reproche, par bribes, d'avoir détourné le cours de sa vie en enfonçant les placés d'or où elle était colporteuse de marchandises vivrières et de conserves, de plus en plus loin dans le ventre de l'arrière-pays, l'éloignant de la côte et de l'éducation de son fils unique, jetant l'oreille, indiscrète. Quelques rares et brefs feulements qui peuvent aussi bien provenir d'un alizé agacé sont les seuls sons à y faire suite. Vraisemblablement, pour ne pas mettre leur pacte en péril, ces personnages supposément féroces usent d'une infinie patience, comme s'ils avaient autant envie d'elle qu'elle avait besoin d'eux. L'épisode n'est jamais bien long. Ils se retirent sur la pointe des pieds avant que la nuit se lasse. Mansès ne fait de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Alors oui, Mansès, c'est évidemment un personnage, un personnage de l'univers de la jeune Christiane, puisqu'on est dans un roman, mais un roman du réel. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, les personnages des livres. Mon univers onirique est d'autant plus vaste que mon monde physique est étroit. C'est dans la nuit que je peux impunément me vautrer dans ces mondes inopinés et déconcertants. Je navigue jusqu'à ceux-ci et ils révèlent une inattendue barbarie. Par exemple, celle infligée à Héloïse et Abélard et leurs successeurs, Manon Lescaut, la Dame aux Camélias, Paul et Virginie. Tout de même, quelle idiotie, quelle pruderie! Ces îles de l'océan Indien me paraissent suspendues et je conserverai une sensation sournoise, importune et embarrassante de ce pays-ci que je perçois comme irréel, avec ses sévices infligés aux esclaves, avec ses éléments de décor dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Néanmoins, il me plaît trop que tous ces mondes soient aussi instructifs qu'insaisissables. Ainsi vont, la nuit, mes déambulations désordonnées. Assurément, si quelqu'un contrôlait mes lectures, je ne connaîtrais pas ces affres et délices précoces. Je sais qu'il est temps de poser le livre lorsque s'invite cet oiseau. Qui, la nuit, qui est-il? Je l'ignore aujourd'hui encore. Mais en tout cas, cet oiseau qui, de temps en temps, chante, il me rappelle que même la nuit, on peut vivre. Il me plaît de penser que c'est une femelle grand tinamou, bien qu'il ne s'en rencontre guère en ville. C'est plutôt un oiseau de sous-bois. Il peut bien se contenter du yamin dans la cour. Normalement, il chante plutôt à l'arrivée de la nuit. Mais souvent, il change d'habitude et à nouveau chante au mi-temps de la nuit. C'est parce que les bêtes changent leurs habitudes lorsqu'elles viennent en ville. Parmi leurs façons de vivre, j'espère bien que monsieur et madame Tinamou conservent celle qui fait que madame vagabonde et marivaude ici et là, tandis que monsieur couve leurs œufs bleu turquoise. Alors, tinamou ou pas, c'est le signal, le bout atteint du temps quotidiennement volé sur le sommeil. Il faut dormir. Nous allons laisser dormir Christiane, enfin très brièvement, et en écoutant de la musique de Guyane, bien sûr, le gragé qui est à la fois chant et musique des anciens esclaves et qui a une particularité rythmique très bizarre. On a l'impression qu'on est toujours un peu à contre-temps, vous allez voir. Thank you.
c'est Ami sur Radio Galère.
Oui, oui, Livres et Amis, donc en Guyane, avec Christiane Taubira. Alors, vous avez entendu dans le Gragé, le chant et les percussions se répondent plus qu'ils ne s'accompagnent. Et j'ai trouvé que vraiment les tambours, là, étaient très, très chouettes. Donc, voilà, c'était les tambours du Gragé de Guyane. Et on va rester en Guyane avec un petit épisode que nous raconte Christiane Taubira, que j'ai bien aimé aussi. Figurez-vous qu'il y a de temps en temps des tortulutes qui viennent pondre. Et quand elles ont pondu, bien sûr, un certain temps après, les petites tortues sortent des œufs et se précipitent vers la mer pour retourner faire leur vie dans l'eau, dans l'océan. Christiane a été un jour voir pondre les... Non, pardon, elle a été voir un jour éclore les œufs, mais dans l'épisode qu'elle nous raconte, là, elle va au contraire voir pondre les tortues. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle est accompagnée par, à nouveau, quelques femmes de la famille. Et elle ne les désigne jamais. Moi, quand j'ai lu le chapitre, je vais vous laisser deviner aussi, on se demande un peu s'il s'agit de femmes de la famille ou par exemple de femmes qui seraient des religieuses du pensionnat. Il y a un « L » pluriel qui est assez intéressant. Et il y a un « nous » pluriel qui serait bien sûr celui des enfants de la famille que l'on emmène voir... la ponte des tortues. Alors, elles nous ont fait lever tôt. Le soleil n'est même pas réveillé que c'est déjà grand branle-bas de combat. Il faut s'assurer que nos sacs préparés la veille sont bien attachés. Il faut tout vérifier. La boîte de biscuits à la fleur de farine pour tromper la faim, la citronnelle pour tromper les moustiques, la boîte à musique à manivelle et les livres pour tromper l'ennui. Et bien entendu, les cahiers de vacances. Ben oui, parce qu'un congé, même le plus petit soit-il, n'est pas sans être bombardé d'exercices de grammaire, de conjugaison, de problèmes d'arithmétique, de tables de multiplication, de révisions de sciences, d'histoire ou de géographie. Comme si, en effet, il ne fallait jamais laisser nos cerveaux au repos. Alors, pour aller voir les tortues, la route est longue. 255 kilomètres. Et là-dessus, une bonne centaine comme piste de latérite d'où se dégage une poussière qui ressemble à celle que respirent les mineurs dans les entrailles de Potosi. Dans la camionnette à banquette, nous sommes vraiment brinque-ballés. Il faut s'accrocher. Nous rangeons avec précaution nos lampes de poche. C'est qu'elles sont devenues nos œuvres. Pour éviter d'aveugler les tortues avec les lumières ordinaires, jaunes ou blanches, elles nous ont fait recouvrir le réflecteur d'une feuille de papier soyeux rouge, d'un rouge moins vif que celui des feuilles qu'on met pour strier et piéger les mouches. Nous avons fixé le papier avec le plus grand soin, afin que cette lumière tamisée dise bien aux tortues que nous ne voulons surtout pas les déranger, mais les guider. Nous sommes arrivés l'après-midi à Hirakubo. Elle tenait à nous montrer les fameux champs surélevés et à nous faire visiter l'église décorée par un bagnard. Oh là là, pire qu'un musée, l'église. Nous avons fait un détour par le marché artisanal où des pagrams à Naré, Walwari, Couleuvre, Croucrou, Katouri, tous de lianes d'arrouement tressées. Tous ces petits animaux, moyens, grands, simples ou très ouvrés, étaient étalés par terre. Elles ont bien admiré tous ces chefs-d'œuvre, mais n'ont rien acheté. Ça n'a pas eu l'air de déranger les vendeuses. Nous avons ensuite repris la route sous un soleil abrutissant. Et dès notre arrivée à Mana, elles nous ont obligés à faire la sieste. Il sera bientôt 19h. Ça va être la bonne heure. La marée sera haute dans 3 heures. Nous sommes arrivés à la pointe à Potili. J'ai vu une chouette à lunettes avec de gros sourcils blancs, perchée sur la branche d'un touka. Elle n'avait pas l'air très amène, donc je me suis fait discrète. Et puis la lune est montée, la lune comme enceinte, bien ronde, mais pas transparente. Et en même temps, la mer montait sans se presser, elle prenait son temps, comme si la nuit lui appartenait. Nous avons bien préparé notre sortie. Alors nous savons tout, ou presque, sur les tortues luttes. D'abord, ici, elles s'appellent Kawana. C'est leur nom amérindien. Les noms créoles sont Toti Franc et Toti Cercueil. Tout ça, c'est maman qui nous l'a appris. Parce que pas un mot sur les tortues dans nos cours de sciences naturelles. Nous savons aussi quelles sont les seules tortues marines à ne pas être poikilothermes. Vous irez chercher ? Moi, je ne suis pas allée chercher. Un mot que j'aime beaucoup. Je le trouve à la fois coquin et baroudeur. Ces tortues sont les plus grosses du monde et elles viennent pondre chez nous, oui, chez nous, comme au Suriname ou au Sénégal ou au Mexique. Alors, la mer est bien montée maintenant. Les vagues font en se lâchant dans les lianes qui courent sur le sable blanc. Les premières tortues en profitent. Elles apparaissent, lentes et lourdes, confiantes. Avec leur carène bleue nuit, elles passeraient inaperçues si ce n'était ces petits points blancs sur la peau, peut-être même que c'est ce qui fait qu'elles se repèrent entre elles. L'encyclopédie de maman dit que ces tortues peuvent pondre environ 100 œufs chacune. Bon, pas d'un coup comme ça, mais tout de même, sur le temps où elles sont là, 100 œufs, oui. C'est vrai que tant qu'à faire des milliers de kilomètres sous l'eau, en remontant respirer toutes les demi-heures, autant bien faire son travail quand on est arrivé. Et lorsqu'elles auront vidé leur ventre, elles repartiront en profitant de la marée descendante. Donc quoi ? 4, 5, 6 heures après. C'est normal qu'elles se fassent aider. Elles sont tellement volumineuses, avec leurs pattes nageoires déployées. Heureusement que leurs carapaces n'ont pas d'écailles, sinon elles pèseraient encore plus lourd. Déjà, presque une tonne sans écailles, ça fait beaucoup, beaucoup de viande à l'intérieur. Mais nous, non, nous ne mangeons la tortue ni en steak, ni en pimentade. Il paraît que ça donne la lèpre. Ah là là, c'est du manger de forçat, les tortues. Vous savez, c'est eux, oui, bah oui, quand ils n'avaient rien d'autre à manger. Il faut dire que la plage et le village des bagnards étaient vraiment isolés. Le pénitencier était très isolé, oui. Donc, ils ne devaient pas avoir beaucoup de choix dans la nourriture à l'époque. Et la cantine du bagne, ça ne devait pas être terrible. Alors, au moins, les tortues, bah oui, ça les changeait de l'ordinaire. Par contre, les habitants, partout dans cette région, disent que l'huile de tortue a rendu de nombreux services. L'huile de tortue a remplacé toutes les autres huiles quand on ne pouvait pas être alimenté autrement. L'an dernier, nous étions venus voir l'étape suivante, quand les petites tortues viennent naître et descendre jusqu'à la mer. Enfin, elles sont là, dans le sable, et puis c'est tellement excitant. Il faut les voir filer. On ne dirait jamais qu'elles viennent justement juste de naître. C'est incroyable, elles avaient vraiment l'air de se presser. On se disait que oui, il fallait qu'elles se dépêchent pour échapper à la chasse de tous les amateurs d'œufs ou de bébés tortues. Eh oui, retourner à l'eau, c'est une meilleure sécurité. Ces bébés tortues se débrouillent très bien, qu'on soit là ou pas. Alors en fait, nous avons vu les tortues, enfin les bébés tortues, avant de voir les œufs. Cette année, nous sommes là pour les œufs. Nous avons fait un peu les choses à l'envers, d'une certaine façon. Et nous faisons bien attention avec nos lampes, parce que même avec le filtre rouge, il faut éviter de braquer la lumière sur le visage des tortues. Il faut juste les guider, qu'elles échappent aux lianes, qu'elles échappent aux pièges de la plage. Et quand même, les lampes, c'est bien, ça nous permet de voir tout en bas leurs deux dents triangulaires. C'est très amusant. Les Guyanais viendront des communes du littoral, ils viendront admirer les tortues, ils viendront observer la ponte, et oui, pour certains, savourer les œufs ou savourer la viande des tortues. Mais nous, nous surveillons. Il va s'écouler du temps. C'est la nuit. C'est la nuit des tortues. Et tandis que les tortues, année après année, persistent à traverser l'océan à la nage pour pondre sur la plage, il y a, loin de là, des anciens missionnaires ou des colonisateurs qui viennent en avion, rassasiés de leur vie sans imprévu, et qui viennent chercher l'exotisme chez nous. Ils viennent aussi, d'ailleurs, nous expliquer comment nous tenir et comment vivre. Eh oui, voilà, donc c'est la grande vie des tortues, c'est la grande vie des Guyanais qui vivent en symbiose avec la nature qui les entoure. Et puis cette petite pique à la fin sur ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui viennent prendre le pays pour une espèce d'Éden paradisiaque, évidemment, et colonial. Alors, à propos de l'orgueil, à propos... du décalage aussi des sentiments ou des ressentis entre les gens d'outre-mer et ceux de métropole. Il y a un chapitre qui est intéressant dans le livre de Christiane Taubira, Nuit d'épines. Il y a un chapitre, oui, où elle se rebelle. Elle nous dit, vous savez, donc c'est la nuit, elle nous dit « Cette nuit, je règle mes comptes. La semaine dernière, avec une sœur, j'ai manqué de répartie, faute de présence d'esprit. Oui, elles sont toujours là à nous balancer les péchés, tous les péchés. Savez-vous, Christiane, que l'orgueil est un péché capital ? Bon, d'accord, les péchés, eux, enfin elles plutôt, c'est leur affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anathème de Mère Agnès ? Cette fois, mon péché d'orgueil vient de mon indifférence à la punition. C'était après-midi théâtral. 5 classes, dont la mienne, allaient voir à la salle paroissiale par la troupe Jean Gosselin, Tartuffe. Tous les ans, nous avons une représentation de pièces, de Molière ou de Racine. Je ne reconnais pas toujours les personnages, mais en tout cas, les costumes sont toujours ridicules. Enfin, aller au théâtre, ça nous fait toujours une sortie. Bien que la salle paroissiale ne se trouve qu'à 100 mètres de l'externat, quitter les hauts murs de l'établissement, et même en renserré, même en étant très cornaqué, même en parcourant les dizaines de mètres sans rencontrer la moindre tentation, c'est toujours une sortie. Mais cet après-midi, justement, je ne suis pas de la fête. Non que je sois punie, enfin, pas directement. Mais je n'ai pas apporté les 5 francs de participation que nous devions remettre la veille au plus tard. Je les avais demandés à maman dès le premier jour. Elle m'avait répondu qu'elle n'avait pas encore touché sa paye et qu'elle me les donnerait le jour de la séance. La veille du jour de la séance est arrivée. J'ai pas osé lui réclamer. La connaissant, je me doutais que si elle les avait eues, elle me les aurait remis. Je savais que parfois, elle percevait son salaire de l'hôpital quelques jours en retard et en réalité, de toute façon, c'était toujours dur avant la fin du mois. Je n'avais donc pas payé. Et j'avais dû regarder toutes les filles des 5 classes en uniforme s'aligner et s'en aller, toutes joyeuses et en chuchotant. Je suis sûre que si la mère supérieure, sœur Suzanne, si paisible, l'avait su. Elle m'aurait autorisée à me rendre au spectacle. Et même sœur Jeanne, elle faisait partie de l'encadrement cet après-midi, elle m'aurait prise en pitié, elle m'aurait emmenée. Mère Agnès, elle, avait l'air ravie que je sois consignée de fait. Et elle s'est empressée de me donner des devoirs pour m'occuper. Et en me disant cela, en effet, elle m'a dit que ça m'apprendrait à être une tête de linotte. Puisque, effectivement, moi, j'avais dit que j'avais oublié l'argent sur la table à la maison. Je n'avais pas osé dire que maman ne me l'avait pas donné. Alors, à ce reproche sur l'oubli et la punition, j'ai répliqué que je ne regrettais nullement, que de toute façon, cette pièce autour d'un personnage aussi perfide et qu'une pièce vraisemblablement mal jouée, de toute façon, je n'aurais pas apprécié. J'ai ajouté que finalement, mon oubli des 5 francs me sauvait de l'ennui. Alors, elle ne trouva pas mes commentaires à son goût et me prévint contre l'orgueil. L'orgueil, oui, péché capital. L'orgueil, pas l'insolence ou pas l'impudence, pas l'irréférence, pas l'outrecuidance, pas même l'arrogance. Non, l'orgueil. J'aurais dû être écrasée, honteuse, courber les chines, puisque, à l'évidence, elle ne croyait pas mon bobard sur les 5 francs que j'avais oubliés sur la table. Elle se doutait que je ne les avais pas et que je ne les avais jamais eus. J'aurais dû en être mortifiée, mais non, je plastronnais. Aussi me mit-elle en garde contre l'orgueil. Je n'ai rien répondu. J'aurais pu lui dire qu'à mettre ainsi l'enfer à toutes les sauces, elle le banalisait. Et j'ai donc décidé, moi, toute seule, là, ce soir-là, cette nuit-là, j'ai donc décidé d'être au clair dans ma tête avec cette histoire de péchés capitaux. Lorsque je les prononce, je leur trouve un goût âcre et fielleux de fruits pourris. Évidemment, je les connais par cœur, et pour cause. Dès l'âge de 7 ans, nous devons les réciter d'une seule lancée en articulant clairement voyelles et consonnes sans trébucher sur la moindre syllabe. Les 7 péchés capitaux, nanana, nanana, et nous les crachons sans hoquet. Okay. Ah, quelle autre pièce de musique pouvons-nous ainsi annonner ? Instinctivement, pour ma bonne santé mentale, j'ai toujours pris des arrangements avec certaines leçons et les 7 péchés capitaux, je les débite sans trop y croire. Autant j'aime les miracles et les apparitions, les contes de fées officiels, très jolis souvent, autant je me méfie de ces récits qui ressemblent à des fables et qui plus est des fables hostiles. Je fais ainsi pour la malédiction de Cham, que les sœurs déclarent ancêtres maudits de seulement nous, les petites filles noires, et pas de nos camarades blanches, filles de gendarmes, de juges et d'autres fonctionnaires expatriés, enfin ex-métropolisés. Nous, dans le livre du catéchisme, nous sommes dans la colonne de ces damnés que l'on voit de dos, accablés, se diriger vers le purgatoire, sans que nous ayons rien fait ni rien pensé pour être ainsi punis. L'autre colonne est composée de figures radieuses. Elles sont de face, on peut bien voir en effet qu'elles sont toutes blanches. Celles-là sont élues du Seigneur et protégées par la Vierge Marie. C'est trop injuste pour que j'accepte. D'ailleurs, il y a des miracles qui tournent en franche rigolade leur sermon sur l'exemplarité. Vous savez, qui a été sauvé de l'éruption de la montagne Pelée sur la ville culturelle et chic de Saint-Pierre de la Martinique? Qui? Vous vous en souvenez? Qui est le seul survivant de la coulée de lave, des explosions de cendres, des nuages de soufre, de l'éboulement fou des roches incandescentes? Qui a survécu dans ce raz de marée dévastateur déboulant d'une montagne qui vivait au-dessus des gens sans rien dire depuis longtemps? Un seul homme, oui, un seul homme. 30 000 victimes, un seul survivant. Une seule personne, un seul rescapé, un seul réchappé. Qui? Cyparis. Et c'est qui Cyparis? Eh bien, Cyparis, c'était le seul prisonnier de la ville. Il était dans une prison si forte, si bien construite et si fermée que ce délinquant ou ce criminel, enfermé presque sous la terre, dans une prison-forteresse impitoyable, a survécu. Et voilà le miracle, voilà la seule vraie miséricorde. C'est la survie de Cyparis, le pécheur. Quant à Noé, le seul homme jugé digne d'être sauvé, eh ben c'est celui-là même qui a maudit son fils Cham. Pourquoi? Parce que Cham s'est moqué de lui en le voyant sous. C'est ça, non? Ah, il y a autre chose. Noé avait bu le fruit de la vigne. Ce n'est pas bien de se moquer de son père, mais quand même. Alors, tant pis pour nous les descendants, c'est pire que la vendetta. Pas besoin de se battre de génération en deux générations, de gagner ou de perdre, la malédiction est là, rien à faire. Vaillant, valeureux, habile, agile, tacticien, impulsif, coléreux, calculateur, rien n'y fait. Allez à Jacta Est, les dés en sont jetés, la victoire ne change jamais de camp, la malédiction n'est pas un divertissement. Tu es noir, tu n'avais qu'à naître comme il faut. Bon, quand même, quand rien ne s'explique, on n'est pas obligé de croire. C'est ainsi que je me préserve des légendes sur ces dévots dévoués et sur ces nonnes auréolées qui, brandissant pour seule arme leur crucifix métallique, prétendent racheter aux yeux du Seigneur les peuples cannibales. Cannibale toi-même, avec ta viande saignante à la cantine et ton corps du Christ avalé à la communion. Cannibale. D'autant que les sœurs, elles ne nous parlent jamais des vierges noires. Que je découvre au hasard de mes lectures. Celle de Rocamadour, celle du Puy-en-Velay, ben oui, dans leur département du numéro 46 ou 43. Réflexe de rabâchage des leçons de géographie. Pas un mot non plus sur Saint-Benoît de Sanfratello, Benoît le Mort, Benoît l'Africain. Bref, le saint à la peau noire, béatifié, canonisé. Rien non plus sur Antoine de Noto. Comme si elle ne savait même pas que sa statue trône, un petit Jésus plutôt beige, ventru dans une église au Brésil. Elles qui savent tout ce qu'il faut savoir sur le Duomo de Florence, ah ben non, les Jésus du Brésil, elles ne les connaissent pas. Jamais entendu parler non plus de Sainte Iphigénie l'Éthiopienne, convertie pourtant par Matthieu lui-même. Enfin, faudrait quand même pas croire ou nous faire croire que le paradis n'est peuplé que de blancs. Les sœurs, elles savent afficher des mines inspirées pour nous dévoiler de semaine en semaine de nouveaux saints et martyrs, tous blancs. Comme si l'humanité tout entière était blanche et n'était occupée qu'à cela jour et nuit depuis sa création dans le jardin d'Éden. On peut aussi compter sur elles, les sœurs, pour faire d'interminables gammes sur Lucifer, l'ange de lumière déchu représenté tout noir comme un corbeau de la tête aux pieds, alors que l'archange Saint-Michel est vêtu d'une éclatante tunique blanche et or, pendant qu'il terrasse justement Lucifer, le talon sur la nuque. L'idée de Satan noir viendrait d'un monsieur Ingres, peintre de son état. Moi, je suis sceptique. Enfin bon, on peut toujours détester ce monsieur Ingres, parce que c'est aussi ce que fait Baudelaire. Mais je crois quand même que les satans noirs, ils viennent de plus loin. Sûrement, peut-être pas tout à fait du fond des âges, mais au moins des temps déjà africains, coloniaux, prestigieux, opulents, à l'inverse de l'empire mandingue que les colonisateurs n'ont jamais vanté, ni de l'université de Tombouctou, alors qu'elle n'est pourtant pas loin. Et oui, ça c'est la culture transmise, la culture que précisément Christiane refuse. On va encore s'en faire un petit morceau avant de se quitter. Tant qu'à faire, je prends également mes distances avec leur version du rôle de Marie de Magdalena, que je trouve attachante, mais qu'elle nous présente pécheresse et pleurnicharde. Cessez donc de pleurer comme une madeleine, assène-t-elle aux plus sensibles. Mes deux frères, qui vont à l'école communale, répètent, en les désapprouvant bruyamment, les grivoiseries de leurs copains sur toutes les femmes qui suivent Jésus. Oh, un peu tébé quand même, de même pas le remarquer, lui. Ou alors, un peu tébé, lui, de pas remarquer toutes ces femmes. Tout occupé qu'il est à prêcher et à multiplier les pains. Ils se gardent bien, malgré leur prudence réprobatrice, de raconter ces couillonnades lorsque maman est à portée d'oreille. Maman a un principe de responsabilité simple que nous traduisons ainsi. Répéter les déraillages d'autrui, c'est dérailler soi-même, et sanction à l'avenant. Pourtant, ces railleries ne sont pas plus offensantes que les chants des Amérindiennes de Cochabamba qui se moquent de Jésus en affirmant qu'il n'a pas de moineaux. Bon, ça, évidemment, c'était les propos des enfants sur l'enseignement religieux et la moquerie que souvent ils utilisent à son égard. Et puis, comme disait Christiane tout à l'heure, quand on ne comprend pas, on n'est pas obligé de tout croire. Alors, je vais bientôt vous laisser avec, en effet, ce chapitre sur la religion. Et je me suis dit que, comme il y avait beaucoup de choses dans ce livre, beaucoup de choses tout à fait riches sur précisément les Caraïbes, l'Amérique latine, etc., eh bien, je crois que nous allons nous faire une deuxième lecture de Christiane Taubira la semaine prochaine. Donc, nous nous retrouverons. Peut-être avec Clément, peut-être avec quelqu'un d'autre. Nous verrons bien. Et en tout cas, la semaine prochaine, Christiane Taubira, Nuit d'épines, nous replongerons dans les nuits de la Caraïbe et les nuits de la côte guyanaise. À bientôt, bonne semaine.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.